Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le jeudi 4 mars et c'est le 16e jour du carême. Aujourd'hui, nous parlerons de la confiance en Dieu et de la manière dont cette confiance, dont la foi en Christ, transforme notre nature humaine. Nous entrons dans ce temps de méditation avec le psaume 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Et nous entendons la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, les versets 5 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un être mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Gloire à toi, Seigneur. Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 2. Silence et gâteau de miel, sixième partie. C'est un sujet intrigant. Il se trouve que les théologiens monastiques du VIe siècle se sont beaucoup intéressés à comparer les tentations de Jésus aux autres tentations humaines, ce qui faisait partie de leur effort pour clarifier dans quelle mesure quand quelqu'un a le sentiment que ce qu'il fait pourrait être mal, cela pourrait déjà entraîner une sorte de péché mental. Pour que Jésus ait connu de vraies tentations humaines, il a nécessairement fallu qu'il passe par les mêmes processus mentaux que nous. Et s'il lui a été possible d'être tenté sans être coupable, c'est qu'il doit y avoir aussi pour nous un certain niveau dans nos cœurs et dans nos esprits, où nous pouvons dire que nous sommes conscients de la possibilité de mal faire, et où cette possibilité peut même être attrayante, sans pour autant que cela implique un rejet délibéré de Dieu. Les points apparemment très techniques de doctrine au sujet du Christ que nous avons évoqués hier ont en fait des conséquences pastorales directes pour ceux qui se sentent dévorés de culpabilité pour des choses dont ils ne peuvent pas s'empêcher. Il arrive un point où nous accueillons délibérément l'image de l'action mauvaise qui se présente, où nous l'autorisons à prendre corps dans notre imagination. Et c'est à ce moment que commence notre responsabilité. Ainsi, nous sommes encouragés à voir Jésus comme pleinement conscient des possibilités générales de la nature humaine, y compris dans ses possibilités de trahison, de lâcheté et d'autogratification. Il en est conscient en tant qu'elle forme une part de qui il est, une personne ayant assumé la nature humaine. Et en même temps, il ne les accueille pas, il ne leur dit pas oui, si bien qu'on peut parler de lui comme étant sans péché. Peut-être bien qu'une partie du problème, c'est que les lecteurs occidentaux modernes ont une certaine tendance à trouver romantique le combat intérieur et la tension. Au moins depuis le XVIIIe siècle et la pensée de Kant, il y a un certain présupposé que les actions qui sont réellement bonnes sont celles qui impliquent le plus d'efforts de notre part et que nous faisons après la plus grande lutte intérieure avec nous-mêmes. Ainsi, notre pensée morale s'est concentrée sur les difficultés de la prise de décision plutôt que sur le caractère que nous nous forgeons sur toute une vie. Mais si nous pensons à ces personnes dont l'intégrité spirituelle et morale nous a influencés, a fait une différence dans nos vies, il nous semblera certainement qu'elles sont précisément celles dont le comportement n'attire pas l'attention sur la difficulté, qui ne montre pas quel grand effort elles font pour être bonnes. Ce sont des personnes chez qui, d'une certaine manière, cela nous paraît naturel. Elles sont devenues une sorte particulière de personnes. Et cette réalité personnelle a commencé à transformer leur manière de vivre la nature humaine et à leur montrer comme l'objet évident du désir des choses un peu différentes. Ici encore, la théologie de l'Église orthodoxe nous donne quelques indices. Jésus, parce qu'il est en tant que personne le Verbe de Dieu, en parfaite communion avec le Père, change la nature humaine à travers son propre abandon au Père dans l'amour, à chaque instant de sa vie et de sa mort. Ceux qui vivent en lui, par sa grâce, voient leur propre nature humaine graduellement transformée, à mesure que leur relation au Christ se développe. Ils deviennent petit à petit ce qui est déjà pleinement présent et pleinement accompli en lui. La nature humaine, transformée par la liberté divine du Christ, est en train de devenir pour eux, comme on dit, une seconde nature. Nous prions. Quel mot, Seigneur, pour dire l'immensité de ton amour. Tu as créé ce monde et tu l'aimes. Tu as donné ta vie et tu la donnes encore. Tu es la vie même. Aucune force de mort, aucune force du mal ne peut te vaincre ou t'arrêter. Tu as habité notre terre, chantant par tes actes et tes mots le pardon donné, l'amitié recréée, la joie retrouvée. Oui, Seigneur, entre dans nos maisons et transforme nos vies. Nous chanterons alors la joie d'être sauvés et nous proclamerons ta gloire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen.